Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs. L'idée, c'est vraiment d'élargir sa vision sur le monde à travers des parcours de vie, à travers des expériences différentes de gens que je rencontre un peu sur mon itinéraire. Là, on se retrouve en pleine mer Rouge sur un bateau qui va relier l'Égypte à la Jordanie. Et sur ce bateau, des gens qui font la croisière en tant que touristes, et d'autres qui sont de service, des gens qui bossent, donc toi, Benjamin, qui est depuis quelques années, je crois, sur des bateaux. Mais on va reprendre un peu tout ton itinéraire personnel. On va s'intéresser dans cette émission un peu de la vie sur un bateau. Comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que de bosser dans un milieu un peu clos, c'est un peu comme une bulle. Mais qu'est-ce qui t'a déjà amené, toi, à titre perso, à vouloir te mettre en mouvement, à devenir un voyageur, et comment est-ce que tu es arrivé sur les bateaux?
Mais malgré que je n'ai pas eu vraiment d'influence, hormis que mon père était peut-être artisan commercial et sillonnait les routes de France pour vendre ses plaques funéraires, c'est pas une bêtise, c'est sérieux en plus. Hein. Oui, il était dans le funéraire. Le marché de la mort a toujours fonctionné, jusqu'à ce que les gens se fassent incinérer. Et ma première aventure, c'était explorer les égouts de mon quartier qui était en construction avec un canoë gonflable. Ça aussi, c'est pas une blague, c'est la réalité. J'ai passé mon BAFA à 16 ans, je l'ai eu le jour de mes 16 ans, et ça a été mon premier voyage puisque j'étais animateur en Konie, en Grèce. Après, je suis redevenu un peu plus sédentaire, malgré que j'habitais un peu partout en France. Et j'ai attrapé l'uvaïs du voyage à 25 ans. À l'époque, je travaillais dans les casinos, donc. Et je suis parti vadrouiller entre l'Indonésie, l'Australie, la Réunion, Madagascar et d'autres destinations. Je ne vais pas tous énumérer parce que je crois que je suis entre 45 et 50 pays. Je reviens en France et je me suis dit, voyager, c'est bien, c'est intéressant, mais ça coûte cher. Il faut que je trouve un plan pour me faire payer pour voyager. Je retourne à l'école pour devenir steward sur une compagnie d'aérienne, c'est en 2009. Et là, crise des subprimes, les compagnies aériennes n'embauchent plus, mais par contre débauchent. Et pendant un an et demi, je déprime parce que je ne trouve pas de travail, jusqu'à ce que Pôle emploi, car oui, Pôle emploi fait très bien son travail à l'occasion, me propose ce poste comme steward, si on peut dire, même si ici on appelle ça animateur excursionniste, pour une compagnie de croisière fluviale.
Tu disais, tu as chopé le virus du voyage. C'est quoi ce virus? Comment est-ce qu'on l'attrape et en quoi ça consiste quand on est malade de voyage?
Peut-être parce que ailleurs, je ne trouve pas ce que j'ai chez moi et que c'est, faut l'admettre, une très bonne école de la vie, car on se rend compte qu'en tant qu'occidental, on vit dans un monde qui n'est peut-être pas le meilleur. J'ai vu des gens pauvres, pas affamés, mais pauvres dans le sens où il n'y avait pas de biens matériels, mais beaucoup plus heureux que des gens riches qui roulaient en voiture de sport avec des grosses maisons. J'appelle ça la simple life, et puis aujourd'hui, comme je suis un peu entre deux eaux, on va dire, j'ai un appartement, une belle maison même, que je loue aux touristes l'été, et qui me permet de construire des cabanes dans ma forêt, car j'ai la chance d'habiter une petite propriété boisée. Et en fait, je me rends compte que je suis plus heureux dans ma cabane sans électricité avec mon eau tiède que dans mon appartement avec internet, des machins dans tous les sens, l'écran géant, etc., etc. Se contenter de peu.
Ouais, ça remet un peu la question en avant de qu'est-ce que c'est qu'être riche, qu'est-ce que c'est que la richesse.
Je pense que c'est pas le nombre de zéros sur le compte en banque. En voyageant aussi, éliminer beaucoup de préjugés qu'on peut avoir sur la race des hommes, la couleur de peau, la religion, tout ce qu'on peut voir à travers une télé qui ne reflète pas forcément la réalité, bien sûr.
Donc à 25 ans, tu parles de ce virus du voyage que tu attrapes, où tu te retrouves dans différents pays du monde. Tu te retrouves aussi confronté à cette contrainte de tous les voyageurs, qui est la contrainte économique. Donc tu cherches un moyen de pouvoir continuer à voyager et vivre du voyage. Donc avant d'arriver à trouver un boulot en lien avec le voyage, comment est-ce que tu t'organisais dans tes différents retours?
Déjà forcément, dépenses minimum, achats minimum, et vite fait, je découvre, avant d'ailleurs qu'on appelle ça du volontariat ou du couchsurfing, je trouve toujours possibilité de trouver un petit job à droite et à gauche, non pas forcément pour gagner d'argent, mais échange de services. J'avais commencé il y a donc une quinzaine d'années en Australie où j'étais logé nourri et je faisais un petit peu de tout dans cette famille d'ailleurs. La maman était française d'ailleurs, très sympa. Je faisais un nounou pour les enfants, je lui filais un coup de main pour faire le ménage, je faisais un petit peu de jardinage et tout, etc. Et par la suite, de par mes voyages personnels, c'est devenu mon leitmotiv, en fait, ma fonction, ma façon de voyager, car quand je me débrouillais, en fait, j'avais que le billet d'avion à payer. Et puis quand on voyage, c'est pour découvrir un pays. Et pour découvrir le mode de vie des gens, en fait, il n'y a rien de tel que vivre avec eux. Et ça m'a donné l'occasion de vivre des sacrées histoires.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et comment tu choisissais tes destinations ? L'Australie, c'était un des premiers longs voyages que tu as fait ?
C'était peut-être pas le plus long. Je suis resté presque un an, en fait. C'était à l'époque du Working Holiday Visa. Donc, on était limité à un an. Après, j'ai surtout choisi la facilité où je bougeais entre les dom-toms et les anciennes colonies françaises. Donc, on n'était pas limité en temps, où il y avait aussi. Je ne parlais pas encore anglais à l'époque, et où donc, forcément, pour communiquer, pour trouver du boulot à droite et à gauche, c'était beaucoup plus facile. De grosses anecdotes qui m'ont particulièrement marqué en Australie, c'est comme tout le monde, hein, je me suis acheté un énorme break où je dormais, je vivais et je mangeais dedans. Moi, j'ai fait du surf, hein, donc forcément, j'étais pas très loin des côtes. Et une fois sur la route du Bush, mon camion est tombé en panne. Enfin, mon van est tombé en panne, et là, j'ai eu du bol qu'il y a un road train s'arrête. Donc, pour les néophytes, en fait, les road trains, c'est des énormes trucks qui trimballent 5-6 remorques. C'est des machins énormes, c'est pour ça qu'on appelle ça des camions-trains, en fait. Et le gars s'arrête, il me voit paumé en plein désert, et il me propose de continuer la route avec lui jusqu'à la fin du Mouche, et je roulais en direction de Brisbane. Je revenais du nord de l'Australie. Et là, je le vois encore avec son énorme grue, prendre mon break, le poser au troisième étage de la quatrième remorque. Il transportait que des voitures. Il me dit, par contre, je suis désolé, je te fais pas monter dans la cabine du camion. Tu continues dans la voiture ? Je suis ok, d'accord. Et voilà, j'ai fait 450 bornes dans le désert, dans ma voiture, perché sur un camion. Voilà, ça c'était assez intéressant comme expérience, quoi. En même temps, le gars, il se serait pas arrêté. Je pense que j'aurais peut-être les os en train de blanchir au soleil à l'heure qu'il est. Deuxième rencontre, la plus humaine, très intéressante, c'est donc justement quand je faisais du volontariat chez cette famille franco-australienne, qu'ils avaient des amis un peu partout, c'était un Byron Bay, je me rappelle. Ils m'ont invité à une bar mitzvah d'un de leurs amis. Alors là, c'était vraiment très très bonne expérience, parce que donc le papa, la bar mitzvah, donc, c'est la fête des 13 ans, du garçon qui passe de l'âge de l'enfant à l'âge adulte. Et il était fier comme Artaban, et c'était quelqu'un de, on va dire, assez puissant dans son domaine industriel. C'était un monsieur qui avait 65 ans, et je me suis cru vraiment dans un film de gangster américain, parce que je voyais ce bonhomme qui faisait la bar mitzvah de son gamin dans sa piscine énorme avec 3-4 nanas top modèles autour de lui. C'était assez rocambolesque pour une fête religieuse. Voilà.
Tu voyais seul à cette époque-là ?
Oui. D'ailleurs, les gens n'ont jamais compris pourquoi.
Pourquoi ?
Parce qu'ils se pensent, mais tu es fou, tu pars seul au bout du monde. Mes parents, les premiers, bien sûr, ils s'inquiètent pour leur petit garçon. Je pars du principe que voyager seul, si tu veux faire des rencontres, t'es obligé, t'as pas le choix. Et il suffit de regarder autour de soi des gens qui partent entre copains, finalement, qu'ils soient à 10 000 km ou chez eux. S'ils sont entre copains, ils feront la même chose qu'à la maison. Ils resteront entre eux et ils vont pas beaucoup bouger leurs fesses. Moi, quand je voyage, c'est 1 pour le surf, 2 pour la culture locale, visiter des monuments historiques, des temples, Machu Picchu en Équateur, j'en passais des meilleurs, au Pérou, pardon. Mais aussi pour rencontrer des gens. Et si t'es seul, t'es obligé de rencontrer des gens, quelle que soit leur nationalité.
Donc tu pars un an en Australie avec ton visa vacances-travail. Quand tu rentres, t'as envie de repartir. Comment ça se passe ? Comment se passe le retour ? Parce qu'il y a aussi cette question-là. Pour les voyageurs, c'est souvent un voyage à un début, mais aussi une fin.
De toute façon, comme en général, quand on aime voyager, qu'on a heureusement l'organisation, les moyens de voyager beaucoup, on n'est pas encore retourné en France, qu'on pense déjà à sa prochaine destination. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours marché. Donc, petite anecdote justement pour l'Australie aussi, c'est ça qui m'a fait rire. C'est que 5 ans avant, j'étais donc parti habiter à La Réunion et j'avais une colocatrice, ma coloc, qui disaient ah, mon prochain voyage c'est en Australie et tout, etc. Blablabla. 5 ans plus tard, je recroise la même coloc sur une plage de Byron Bay. Le monde est très petit, ça je m'en suis rendu compte aussi.
C'est vrai qu'il y a aussi cette magie dont on parle des fois dans le voyage entre voyageurs, une forme de, ouais, de magie ou de synchronicité où tu te retrouves dans des situations complètement improbables où des fois tu es en galère et bam, la providence arrive. Tu parlais de ce camion, ce road train qui t'a sauvé au milieu de la route. C'est souvent des rencontres où tu comprends pas ce qui se passe, mais ça se passe.
C'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense que je dois avoir l'étoile du berger qui me protège. Parce que j'ai aussi fait l'humanitaire à Madagascar, enfin j'ai eu des trucs pas très jolis forcément, humainement parlant, foyer de peste, famine, etc. Et j'ai remarqué qu'il y a... Je pense que c'est une question de karma. Si on est gentil, si on est bon, si on fait pas de la merde, si on est avec les gens, si par exemple ces gens qui m'ont logé, qui n'ont pas été les seules familles, on fait pas des choses mauvaises comme, je sais pas, moi, se barrer en piquant la télé ou casser des trucs ou essayer de les arnaquer. Il n'y a rien de mauvais qui peut arriver. Ça m'a donné franchement envie de croire au karma. Et moi, franchement, en 45 pays, à part 2-3 arnaqueurs, qui donc, à mon avis, n'ont pas dû rester longtemps, faute de bon karma, j'ai toujours rencontré des gens qui m'ont aidé quand j'étais dans la galère, qui m'ont donné des coups de push-up, des gens que je ne reverrai jamais. Mais du coup, c'est dans ce cas-là un devoir de, si jamais un jour, toi, tu rencontres quelqu'un de bien qui est dans la merdouille et tout, etc., si tu peux l'aider, tu l'aides. C'est un service qui se transmet de personne à personne. Voilà.
Donc là, tu es en train de me dire que tu as un bon karma.
Pour moi, j'ai un bon karma parce que honnêtement, je n'ai jamais eu de galère. Alors que quand j'entends beaucoup d'autres voyageurs, habillés ou non, au bout de 3 jours, les gars, ils étaient au bord du suicide parce que on s'est fait piquer notre argent, on a perdu le passeport, les caméras ou le matos technique de certains photographes se font arrêter, embarquer aux douanes et tout, etc. Franchement, je pense qu'il y a quand même une influence. Ouais. Je crois vraiment à cette chose-là. Si t'es bon, si t'es gentil, t'attires les gentils gens et les bonnes choses.
Dis donc, c'est plein de sagesse que tu dis. Donc, quand on est gentil, on attire des belles situations, des belles personnes. Donc, faut être gentil, en fait. C'est ça, la conclusion.
Je pense, ouais. Pas trop quand même. Faut être un petit peu malin. Parce que, bon, les gentils, le problème, c'est qu'ils sont facilement arnaqués. Alors, moi, j'ai appris avec le temps à être gentil, mais surtout d'être sympa. Il y a une différence entre sympa et être gentil.
Knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stop.
Bon bah là je te rencontre comme le sympa animateur du bateau.
Oui, tout à fait.
Alors comment est-ce qu'on en devient si Pôle emploi tu disais, donc c'était vraiment cette volonté de continuer le voyage, mais de le rendre économiquement viable, c'est ça le projet?
Tout à fait, ouais, tout à fait, parce que l'avantage forcément quand on travaille sur un bateau de croisière, c'est qu'on ne dépense pas son argent. On est logé, nourri, blanchi, on compte pas ses heures, mais la paye est quand même raisonnable. Et puis, quand on se retrouve en demi-saison d'hiver où il n'y a rien à faire en France, où il fait pas beau, etc., qu'est-ce qu'on fait? On repart. Mais pas sur les bateaux, ce coup-ci, pour un voyage personnel. Ce que je faisais pendant mes 2 mois de janvier-février où les bateaux étaient off, au bout de 3 jours, l'hiver en France, c'est pas top. Hein, alors, je faisais comme Josette qui joue au loto, je prenais une fléchette, je l'ai balançais sur le map monde et je disais, tiens, ce coup-ci, ça va être... Ah ok, Brésil, allons-y, ça tombe bien, j'ai des potes là-bas. Oui, parce que forcément, plus tu voyages, plus tu racontes des potes qui disent « Mais viens chez moi toi un jour, viens me voir !» Donc tu finis par aller les voir.
Et donc c'est quasiment une vie de mouvement là pour l'instant.
Ouais, mais là je commence à jeter l'encre tout doucement.
Alors parle-moi de ça, parce que là du coup je m'identifie un peu à ton propre parcours, vu qu'on a à peu près le même âge. C'est vrai que le mouvement fait partie aussi intégrante de ma vie. Je pense même que ça fait partie du rêve de l'humanité, que d'être en mouvement. De tout temps, l'homme a voulu voir ce qui se passait dans la vallée d'à côté, dans la ville d'à côté, le village d'à côté, l'autre côté de la frontière. Mais à un moment donné, est-ce qu'on est fatigué d'être tout le temps en mouvement? Comment toi tu te positionnes par rapport à ça? Tu parles de jeter l'encre, pourquoi?
Alors justement, tu viens d'en parler parce que tu étais avec moi quand on a été visiter Petra, Ankara, le temple de la Vallée des Rois et compagnie. Quelque chose qui, pour un débutant voyageur, t'as les yeux écarquillés, t'en parles à tous tes copains, t'envoies des photos partout sur Facebook, Instagram et tout, etc. Bref, c'est une expérience merveilleuse. T'en rêves même la nuit. Moi, je me suis rendu compte que... Alors, je vais peut-être faire mon gros gaffe frustré qu'on n'a plus rien à faire. Mais voilà, j'ai adoré les 2 premières heures, et après, non. C'est peut-être que, sans être prétentieux, j'ai peut-être trop voyagé, et puis voilà quoi. Enfin après, comme je dis toujours, je reviens à mon histoire des fraises. Moi j'adore j'adore les fraises. Maintenant tu m'en fais manger 3 kilos, j'ai mal au ventre. Voilà, donc je commence peut-être à... Ouais, non, ça va, j'ai assez voyagé, ça va.
Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Benjamin, je te rencontre sur un bateau. Raconte-moi un peu la vie sur l'eau.
C'est assez confiné, ouais, effectivement. Hein. C'est-à-dire qu'on mange ensemble, on dort ensemble, on travaille ensemble, on s'engueule ensemble, on se marie ensemble, on fait des enfants ensemble. Et en général, quand on arrive à cette étape-là, pour l'équilibre de la famille, faut arrêter ce métier-là. Même si c'est un job merveilleux, qui apporte beaucoup, mais qui est absolument pas compatible avec une vie de couple ou même une vie de famille. Moi, justement, c'est peut-être ça aussi que tout doucement, j'arrête aussi les voyages et les bateaux. Hein. Moi, je ne suis plus en CDI, je suis en saisonnier. Donc, en fait, la compagnie, elle m'appelle, surtout quand elle a besoin de moi pour faire des remplacements, des arrêts de travail, des départs en vacances et compagnie. Alors, ça a stoppé mon évolution professionnelle. Je ne serai jamais commissaire de bord comme Daniel. Hein. La petite Morgane le sera certainement avant moi. Mais c'est le prix de la liberté.
Ouais, parce que t'as toute une hiérarchie aussi dans un bateau.
Tout à fait. Commandant, commissaire, animateur de bâton, hein, t'as vu les galons, hein, et puis les matelots, les philippins, les hôtesses, les serveurs, etc., etc. Mais c'est un job qui est très intéressant, surtout pour ceux qui n'ont pas su ou n'ont pas pu faire des études, parce que moi j'ai déjà vu des plongeurs qui aujourd'hui sont commandants de bateau. Voilà, c'est un job très dur, mais on offre sa chance à tout. Pas besoin d'avoir bac plus 5 pour être commandant d'un bateau.
Tu t'imaginais travailler sur un bateau quand tu étais ado?
Mais je m'imaginais déjà voyager. Donc quand j'étais gamin, je voulais être paléontologue.
Mais là, tu voyages, mais finalement, tu voyages dans un milieu confiné, clos, et tu as très peu de temps pour vraiment profiter des destinations que tu traverses.
Oui et non, parce que je ne peux pas découvrir à titre perso, effectivement. Mais par contre, comme je fais escorte pour mes passagers quand ils vont visiter les sites historiques, hein, comme on a fait avec en Jordanie là, et en Égypte, eh bien, je découvre ce que j'appelle les spots à touristes. Donc vraiment les trucs que tu regardes avec de l'envie dans les documentaires, je les vois en vrai. Petra, c'est un rêve de gamin, quoi. Indiana Jones, c'était mon héros quand j'étais ado, quoi. Alors, Petra, c'est ouh. Mais c'est le seul avantage. Après, c'est vrai que découvrir un endroit un peu plus de façon naturelle en évitant les spots touristiques, c'est-à-dire les hors sentiers battus, dans les rues où les touristes ne vont pas, rencontrer les gens, pour moi les vrais gens qui ne bossent pas dans le tourisme, le paysan du coin, le boulanger ou boucher du coin, là forcément ça ne m'est pas permis, ça ne m'est plus possible quand je travaille sur les bateaux, puisque eh bien, je dois surveiller mes ouailles.
Tu parlais de l'incompatibilité avec la vie familiale, personnelle, comment tu te positionnes, comment tu fais toi?
Bah moi c'est réglé, j'en ai pas de vie personnelle, donc voilà, mais ça commence tout doucement, voilà.
Oui, parce que tu parles de transition, avec cette envie peut-être, tu utilisais l'expression « jeter l'ancre », avec un projet plus en lien avec la terre, vivre dans des cabanes, le côté écologique, mais quand même encore dans l'accueil, dans le tourisme.
Oui, bien sûr, parce que bon, moi, forcément, t'as accumulé une certaine expérience dans le milieu, donc autant y mettre à profit, tu sais. Un rêve, que ce soit voyager ou dans mon cas, avoir ma petite forêt avec mes cabanes en bois, c'est bien beau. Mais il faudra toujours d'argent pour financer ce rêve, que tu le veuilles ou non. Donc voilà, moi je resterai un peu dans le secteur du tourisme où je louerai mes cabanes, par exemple, voilà, pour pouvoir les financer. Comme au même titre, à l'époque, bah, je me suis débrouillé pour être steward ou animateur, pour me faire financer mes voyages dans un sens.
Ouais, parce que steward, le délire, c'était ça aussi, c'était de pouvoir prendre des avions pour aller dans des pays différents et continuer à voyager.
Tout à fait. Et finalement, le boulot est le même, enfin quasiment le même, sauf qu'au lieu de voler, je navigue.
Oui, à un rythme plus calme, t'as pas les décalages horaires, quoi. Peut-être un peu plus doux pour le corps aussi.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que oui, entre une ou deux heures de décalage en navigation, quand on passe d'un pays d'Europe ou non, et ce qui se passe sur les avions, ouais, c'est peut-être quand même moins fatigant, on m'a dit. Enfin, moi, j'ai des amis qui sont stewards. Les gens qui volent vieillissent plus vite que la normale.
Une leçon de vie que t'as apporté le voyage?
Alors c'est un peu d'actualité, je me rappelle d'un truc qui m'avait choqué à une époque. Je voyais 3-4 gamins en fait qui jouaient sur un tas d'ordures. Et à un moment donné, il y en a un qui est dans une décharge. Et puis il y en a un qui se casse la figure, quoi. Je prends une bonne gamelle. Hein. Le gamin se relève, il se frotte et tout, il me fait un grand sourire, il reprend son bâton, son pneu, il retourne jouer avec ses copains en haut du tas d'ordures. Aujourd'hui, quand on voit une magnifique société occidentale, n'est-ce pas, qui pourrit le cerveau de nos gamins. Quand je vois le cirque que fait un enfant dans un supermarché pour avoir le dernier Pokémon qu'on lui a rentré à coup de publicité dans le crâne et qui se met à pleurer juste simplement parce qu'il s'est mis un picot de rosier dans le pouce, rien du tout, je me dis, il y a quand même un petit problème. Est-ce qu'on serait pas en train de faire de nos gamins des chiffres molles? Voilà, ça pour moi c'est une leçon de vie et c'est un petit côté philosophique. Je me dis que moins on en a, plus on profite du peu qu'on a. Et qu'aujourd'hui, bah, nos enfants et puis nous-mêmes, on est blasés des dernières fringues, des derniers Nike, des derniers ceci, des derniers cela, parce que de toute façon, quoi qu'on aura, on voudra toujours mieux. Par contre, si on n'a rien, si on n'a que dalle ou très peu de choses, on va l'encenser. Dans les années 30, t'avais une paire de chaussures, elle te durait 5 ans, tu la graissais tous les jours, dès qu'il y avait la semaine qui se décollait, tu la recousais, c'était quasiment l'investissement de 6 mois de travail. Alors qu'aujourd'hui, t'as une paire de chaussures, tu fais quoi? Tu la fous à la poubelle, même pas parce qu'elle est morte, parce que t'en as vu une meilleure à droite. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us.
isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope so.
Tout à fait, donc less is more, cette notion de sobriété, de simplicité, de simplicité volontaire, hein, tu l'as très bien exprimé. C'est vrai qu'aujourd'hui la richesse et le bonheur ne s'acquièrent plus, en tout cas dans cette illusion qui a nourri nos sociétés pendant des années, hein, cette soif d'essentiel dans laquelle on vit aujourd'hui. On veut tous la même chose, c'est d'être bien, d'être heureux, et on se rend bien compte que bah, on a atteint nos limites et qu'il faut revenir à cet essentiel. Et c'est un petit peu vers ça que tu vas dans ton nouveau projet de vie.
Ouais, tout à fait, parce que je pense que enfin, on va pas parler de l'actualité actuelle, c'est le cas de le dire, hein, on sait très bien ce qui se passe. Donc il n'y a pas de solution pour moi. C'est justement, les voyages m'ont appris à me débrouiller avec peu, à être heureux avec peu. Et je pense qu'il faut arrêter de parler écologie, il faut arrêter de polluer, voiture électricité, nanana. Non, il n'y a pas de solution. Comme tu as dit, less is more, c'est simple. Aujourd'hui, on achète 3 patates pour le déjeuner, on n'en mange qu'une seule, et les 2 autres partent à la poubelle. Si on veut être heureux, il faut juste se contenter de ce qu'on a, tout simplement. Comme je l'ai dit, moi j'ai une maison que je loue aux touristes l'été pour financer mes cabanes. De temps en temps, ils descendent dans ma forêt me voir dans ma cabane. Ils disent « Ah, mais vous êtes bien dans cette cabane, vous la louez pas ?» Non. Non. Ça vous plaira pas de toute façon, parce qu'il n'y a pas d'eau, il y a pas d'électricité, il y a très peu d'électricité, et tout, etc. « Ah oui, mais si, c'est ce qu'on cherche. » Et justement, c'est vrai que bizarrement, le Covid et tout, etc., ça... ça a percuté un peu la tête des gens qui veulent se rapprocher de la nature. D'où, je pense, l'attrait de cette fameuse cabane. Mais j'aurais pas la prétention de connaître l'âme humaine. Mais comme je l'ai dit, on se lave vite de ce qu'on a. Donc ces gens qui, ah, la cabane, elle est belle, etc. On aimerait bien l'essayer. Oui, au bout de 2 semaines de vacances, hein, vous allez adorer. Par contre, quand il va falloir commencer à la repeindre, couper du bois pour mettre dans la cheminée, aller chercher les champignons et tout, etc. Qu'on va commencer à faire froid un peu en hiver, vous allez vite regretter votre iPhone 14, votre Internet, et bien sûr, vos Nikers sur Internet.
Benjamin, là je te prends dans un temps de pause, mais je crois que tu vas retourner bosser. Tu vas faire quoi là?
Bah, comme Morgane vient de le dire, je vais faire la présentation de la vie à bord à nos passagers, donc comment fonctionne le bateau, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et donc présenter ces fameuses excursions qu'on va faire durant cette croisière.
Et je te laisse bosser, merci à toi, salut Benjamin.
Merci beaucoup Alex.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. Le podcast que vous venez d'entendre est extrait de la série Regard d'ailleurs, une émission qui donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde. Dans le cadre de mon métier de photographe voyageur, j'ai cette chance de pouvoir croiser des gens très souvent inspirés et inspirants. Et j'aime plus que tout leur tendre le micro pour pouvoir leur donner la parole. Belle journée à tous.